Bonjour, soyez la bienvenue. Le message qui va suivre vous est proposé par la Mission Mondiale d'Évangélisation Jésus-Christ est la réponse. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez équipé pour relever vos défis et encouragé à travailler à la réalisation de votre destinée. Ce message a été enregistré à la chapelle des Moissonneurs, annexe de la chapelle Rehoboth, église principale de la Mission JCR. Sans plus tarder, nous vous laissons à l'écoute du révérend M. Piebi Gaëtan. Révérend M. Piebi Gaëtan.
La vie abondante, c'est ce que Dieu veut pour nous. La prospérité est la clé qui nous ouvre les portes de l'abondance et de la faveur. La prospérité, comme nous l'avons vu, ce n'est pas de posséder de l'argent, mais la prospérité nous amène à posséder l'argent. C'est deux choses différentes. Il faudrait que cette vérité soit vraiment établie dans notre vie. Ne confondez pas les choses. Prêcher la prospérité, c'est pas prêcher l'argent. Il y a une différence entre prêcher la prospérité et prêcher l'argent. Quand je prêche l'argent, je parle de l'argent. J'explique aux gens qu'est-ce que c'est que l'argent. Mais quand je parle de la prospérité, je parle du développement de l'homme. C'est deux choses différentes. Le fait qu'on a mélangé ces deux choses, nous avons installé la confusion. Au point où il est difficile aujourd'hui pour les gens d'apprécier le message de la prospérité. Or, s'il y a un message que nous devons apprécier, que nous devons chérir, que nous devons aimer, c'est le message de la prospérité. Parce que grâce à celui-ci, nous pouvons posséder ce qu'il y a de meilleur. Ce message nous permet de nous développer, de nous positionner, de nous asseoir et d'être stable dans la vie. C'est très important et vous devez aimer le message de la prospérité. La prospérité vous fait sortir du trou dans lequel vous vous trouvez et vous donne une position dans la société. La prospérité. Tous ceux qui ont eu une position ou tous ceux qui ont une position ont dû faire un travail dans leur vie pour arriver là où ils sont. Voilà pourquoi trois gens disent, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais il ajoute, comme prospère l'état de ton âme. Donc je peux être dans un taudis, je peux être dans un trou, je peux être au plus bas de l'échelle. Qu'est-ce qui va me permettre de remonter la pente et avoir une position dans la société? C'est le développement de mon âme. Le développement de mon âme. Et c'est ça, la prospérité. Et c'est ce que j'ai appris de Dieu. Je ne peux pas vous donner autre chose. Et quand vous lisez Actes des Apôtres, la Bible dit, il croissait dans la connaissance. Il persévérait dans les enseignements, dans la fraction du pain, dans la communion. Et le Seigneur faisait des miracles. Les miracles, ce n'était que le résultat de leur prospérité. Et chaque jour, le Seigneur ajouta à l'église ce qui était sauvé. Pourquoi? Prospérité. Croissance. Ils n'étaient plus des enfants. La prospérité ne sert pas des enfants. À ce qu'une mentalité encore enfantine. La prospérité ne sert pas ces personnes-là. Et vous devez affectionner la prospérité. La prospérité, c'est la clé qui vous permet de stopper la honte, le mépris, le rejet et vous rend acceptable aux yeux des hommes. Si tu rentres dans la sphère de la prospérité et que tu affectionnes la prospérité, les gens vont commencer à t'accepter. Et tu seras respecté. Et tu seras considéré. Et lorsque tu arriveras quelque part, ce ne serait plus toi qui se bat pour trouver une place. On se bat pour te trouver de la place. Parce que la prospérité t'a redonné la dignité. Et la dignité te permet d'être distingué. C'est très important. C'est très important. Et je vais insister là-dessus. J'avais cru, moi aussi, que la prospérité, c'était prêcher l'argent. Et à chaque fois, je me posais une question qui hantait mon esprit. Pourquoi des prédicateurs américains et les prédicateurs anglophones sont différents des prédicateurs francophones? Et pourtant, eux aussi, ils prêchent la prospérité que nous, on prêche. Mais pourquoi il y a cette grande différence? Pourquoi on ne sent pas un changement? Je ne sais pas si vous, vous vous êtes posé ce genre de questions. Moi, je me suis posé cette question-là. Alors, quand vous voyez les églises américaines et les églises anglophones, ils doivent la grandeur de leur ministère par la capacité de la prospérité de leurs membres. Parce que tout simplement, ils ont enseigné les gens et les gens ont pris le message. Ils se sont tenus sur le message. Et ils ont dit à Dieu, ton serviteur a dit, ton serviteur a enseigné. Si c'est ta parole, démontre-moi que c'est la vérité. Maintenant que je me tiens, que j'applique les principes. Et quand ils ont appliqué, ils ont obtenu les résultats. Et à partir de ce moment-là, ils sont revenus dans l'église, ayant dans leurs mains les actions de grâce, en disant, j'apporte à l'église mon offrande. J'apporte à l'église ma dîme. J'apporte à l'église mon vœu. Parce que quand je suis rentré ici, je n'étais rien. Et c'est comme enseigner a bouleversé ma vie. Je l'ai mise en pratique. J'ai obtenu les résultats. Mais je veux rendre grâce à ce Dieu-là qui m'a permis de sortir du trou où j'étais. Et c'est ça qui fait la différence entre les églises francophones et les églises anglophones. Ils prêchent la prospérité. Nous, nous prêchons l'argent. Et le fait que nous prêchons l'argent, nous utilisons même des méthodes qui ne sont pas bibliques. Et au lieu d'avoir un peuple fort, nous avons un peuple blessé. Nous avons un peuple frustré. Et nous avons un peuple qui éprouve du dégoût pour ce que nous faisons. Et au lieu que l'église puisse croître, l'église ne fait que diminuer. Et j'ai vu des églises se vider à cause du message de l'argent. Mais pas le message de la prospérité. Donc je reprends. La prospérité, c'est la clé qui vous permet de stopper la honte, le mépris, le rejet et vous rend acceptable aux yeux des hommes. La prospérité, c'est tout simplement la transformation de notre âme qui engendre une mentalité appropriée. Voilà la prospérité. La transformation de notre âme qui engendre une mentalité appropriée. Deuxièmement, la transformation de nos attitudes en vue des sommets. On ne peut atteindre les sommets sans connaître un véritable changement dans notre monde de pensée. Prendre son envol, aller dans les hauteurs. Mes amis, ce n'est pas le fruit du hasard. Toute personne qui a réussi dans ce monde ont fait un travail dans leur mentalité. C'est très important à comprendre. La mentalité exige une transformation claire de la pensée qui engendre en nous le courage, la confiance en soi pour l'excellence. Je reprends cela. La mentalité exige une transformation claire de la pensée qui engendrera en nous le courage et la confiance en soi pour l'excellence. Personne ne peut sortir de la médiocrité sans avoir travaillé son âme. Personne ne peut sortir de la médiocrité sans avoir travaillé son âme. Une personne qui sort de la médiocrité et se positionne dans l'excellence et porte les fruits excellents et change sa vie, change son environnement, change son statut, cette personne-là a fait forcément un travail dans son âme. Cette personne a fait un travail dans son âme. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous ne changerez pas l'histoire de votre vie. C'est très important. Donc j'insiste là-dessus. Faites un travail dans votre âme. Vous savez, il y a des personnes, quand ils viennent dans un environnement où les gens ont de la hauteur dans leur mentalité, et qu'ils viennent dans cet environnement et constatent que les gens dans cet environnement savent exercer la libéralité sur le plan financier, sur le plan matériel, ou dans n'importe quel domaine, ils découvrent que ces gens-là donnent. Il y a deux choses qui vont se passer dans sa vie. La première chose, ou il va être frustré. Et il va se dire, moi je ne peux pas rester ici. Quel est cet endroit-là où on passe son temps qu'à donner? Mais cette frustration-là dénote quelque chose, des manquements. Des manquements. Et il y a les gens qui sont frustrés. Mais la cause de leur frustration, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce que les autres font. Et comme ils ne peuvent pas reproduire ce que d'autres reproduisent, ils se mettent dans une position de murmure. Mais ça dénote tout simplement une impuissance dans un domaine bien précis. La deuxième chose qui peut se produire dans la vie d'une telle personne, c'est qu'elle puisse se dire ceci. Je ne dois pas rester comme je suis. Si les autres arrivent à donner, il faut que moi aussi j'arrive à donner. Et je vais travailler pour que j'arrive à cela. Et à partir de ce moment, cette personne, si elle est sage, elle doit étudier les clés ou les principes qui ont amené les autres à arriver là où ils sont. Et si elle met en pratique les mêmes principes, elle va obtenir les mêmes résultats. Parce que les principes marchent toujours. Les principes n'ont pas besoin d'un environnement géographique. Les principes, lorsqu'ils trouvent un cœur déterminé, les principes libèrent la grâce dans la vie de cette personne. Donc c'est des vérités qu'il faut comprendre. Et j'aimerais vous dire, ne soyez pas frustrés. Si tu marches avec quelqu'un qui est toujours béni, ne l'en veux pas. Demande-lui qu'est-ce qui fait ta force. Ne le critique pas. Et souvent, ce genre de symptômes, on le retrouve plus chez les femmes. Quand vous étudiez l'environnement de la femme, il y a des choses bizarres, même des choses où vous sentez que ça ne nécessite pas qu'on s'arrête dessus. Du style, elle s'habille trop bien. Elle veut montrer que, est-ce qu'il n'y a que elle? Moi aussi, je peux. Mais ne critique pas. Si elle s'habille bien, c'est parce que tout simplement elle a prospéré. Et sa prospérité, elle le doit à la transformation de son âme. Donc ne la maudis pas. Ne la combat pas. Mais comprends que si l'état de l'autre crée en toi cette réaction, c'est qu'au fait, tu dois aspirer à cela. Ne combat pas la personne. Et quand on comprend ça, on ne peut pas se combattre. Voilà pourquoi à l'église de Jérusalem, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Imaginez une église où il n'y a pas d'indigent. Une église où personne n'est indigent. Une église où on ne peut plus exercer le soutien vis-à-vis de l'autre parce que tout le monde possède quelque chose. Comprenez que c'est une église qui a connu une prospérité extraordinaire dans leur âme. Et la prospérité qu'ils ont connue les a amenés à posséder tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Donc ne soyez jamais jaloux de quelqu'un. Dites-vous, Seigneur, si tu l'as fait, tu peux aussi le faire pour moi. Et je me souviens que dans les années 80, c'est comme ça qu'on priait. Seigneur, si tu as béni, bon, que tu peux aussi me bénir. Seigneur, si tu as élevé Jimmy Chouaga, tu peux aussi m'élever. Seigneur, si aujourd'hui je peux voir béni, rempli d'onction, tu peux aussi me donner l'onction. Et ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? On va dans la librairie, on voit le livre de Bonko de Benin, on le prend et on commence à étudier leur vie. Ou on se procure une cassette de Benin ou de Renard Bonke et tu l'écoutes prêcher et tu commences à imiter ses faits et gestes parce que tu veux rentrer dans sa dimension. Mais tu ne combats pas. Tu ne combats pas. Donc, ayez une hauteur d'esprit. Mais pour l'avoir, acceptez de faire un travail dans votre âme. Acceptez de faire un travail dans votre âme. Et quand quelqu'un réussit, acclame le Seigneur. Si tu ne peux pas acclamer, comprends qu'il y a un travail que tu dois faire. Et si l'autre vient correctement, il ne vient pas faire un défilé de mode. Mais il ne porte que ce qu'il possède. Et j'ai vu des gens aussi, ayant connu la prospérité, ayant en eux une mentalité excellente, devenir ridicule parce qu'ils habitent au milieu d'un peuple qui a une mentalité broyée, cassée. Ils se disent que l'humilité, c'est de se rabaisser et se mettre à cette hauteur-là. Et quand ils se rabaissent, ils se rendent compte qu'ils deviennent ridicules. Mais c'est ça la religion. C'est une personne qui a eu de la hauteur. Quand il rentre dans l'église, on voit qu'il devient bizarre. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui lui arrive? La réponse est toujours, il prie. Vous l'avez jamais entendu? Non, il prie, il prie. Mais mon Dieu, on ne le reconnaît plus. Mais mon Dieu, cet homme avait de la hauteur. Mais il avait de la classe. Eh, mon frère, il prie. Il paraît qu'il est maintenant dans les églises de réveil. Il prie. Il prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Église éveillée égale médiocrité. Église éveillée égale perte d'éclat. Église éveillée égale pauvreté. Église éveillée égale dévalorisation, ridicule. Église éveillée égale appauvrissement. Église éveillée égale échec. Église éveillée égale, qu'est-ce que je peux ajouter? Misère, bassesse, avilissement. On recule au lieu d'avancer. Et c'est vrai. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à la mentalité des églises dites éveillées. Des églises dites éveillées. Mentionnez ça. Dites éveillées. Parce que moi, je ne suis pas dans dites. Je suis une église de réveil. Et je réveille les consciences. Et j'interpelle les consciences. Et j'encourage les gens à être meilleurs. Je ne prêche pas le ridicule. Je ne prêche pas la bassesse. Je ne prêche pas la malédiction. Je ne prêche pas la paresse. Je ne prêche pas le ridicule. J'ai dit il faut travailler. J'ai dit un citoyen doit travailler. J'ai dit un citoyen doit être à l'heure. J'ai dit un citoyen doit s'élever. J'ai dit un citoyen doit aimer son pays. J'ai dit un citoyen doit prier pour son pays. J'ai dit un citoyen doit être indépendant sur le plan matériel et financier. Et tu n'as pas besoin de mendier. Mais pour arriver là, ce citoyen a besoin de travailler. Donc ne m'ajoutez pas, dites, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et je ne veux même pas être dedans. Parce que ça me fait peur. Ne soyez pas jaloux quand l'autre réussit. Personne ne peut sortir de la médiocrité sans avoir travaillé son âme. Je vous invite à lire avec moi un texte qui se trouve dans Matthieu 4. Je lis à partir du verset 12. Jésus, ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, s'est rendu dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Pourquoi il vient demeurer là? La raison, nous trouvons cela au verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé ou prédit par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du Jourdain, au-delà du pays et de la Galilée des païens, ce peuple assis
dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sous ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment-là, Jésus commençait à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La Bible dit: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Remarquez bien que le peuple était dans les ténèbres, mais tout à coup, une lumière jaillit. Eureka, révélation. Assis dans les ténèbres, Eureka, une lumière jaillit. La Bible dit, ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, remarquez bien, la région de l'ombre de la mort, la lumière a jailli. Et dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance à laquelle Jésus faisait allusion n'a rien à voir avec la confession des péchés. Jésus ne disait pas: confessez vos péchés. Jean-Baptiste est venu à dire: repentez-vous, confessez vos péchés, faites-vous baptiser. Mais Jésus lui vient et dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc Jésus ne prêchait pas la repentance liée au fait de confesser les péchés. Mais Jésus invitait ses contemporains à transformer leur mentalité. C'est-à-dire à connaître le métanoïa de Dieu, qui veut dire changement de mentalité. Changement de mentalité, le métanoïa. Car il disait: le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire la sphère de la puissance de Dieu est proche. Un peu plus loin, il dit: le royaume des cieux est maintenant au milieu de vous. Repentez-vous, changez de mentalité. Il y a une puissance qui est prête à se révéler. Mais cette puissance-là cherche une mentalité. Et si vous n'avez pas la mentalité qu'il faut, cette puissance ne peut pas se dégager. Mais si vous avez la mentalité qu'il faut, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Même si vous êtes dans l'ombre de la vallée et de la mort, la révélation de la parole de Dieu va bâtir en vous une mentalité. Mais acceptez de sortir de la mentalité médiocre. Repentez-vous. Métanoïa. Transformation. Changement de mentalité. C'est ce que les hommes politiques essayent d'enseigner. Mais ils n'ont pas les clés. C'est l'Église qui a la clé. Alors qu'on nous donne les médias pour éduquer la population dans le métanoïa, pour aider la population à pouvoir travailler de ses mains, à être productif. Métanoïa, dites métanoïa. Des transformations de mentalité. Dites la puissance de Dieu là. La prospérité est à notre portée. Mais elle est conditionnée par notre mentalité. La mentalité. La mentalité. Si vous ne changez pas de mentalité, vous ne pourrez pas posséder le royaume des cieux. La mentalité, c'est ce qui vous fait et vous rend différent des autres. La mentalité, c'est ce qui vous fait et vous rend différent des autres. La mentalité, c'est ce qui fait la grandeur d'un peuple, la grandeur d'une nation. La mentalité, c'est ce qui fait la grandeur d'un peuple et la grandeur d'une nation. Mais cette mentalité ne peut être communiquée que par la hiérarchie qui doit avoir elle-même connu le métanoïa de Dieu. Parce que quand le leadership d'une nation connaît la transformation de la mentalité va se dépeindre sur tout le monde. Parce que être leader, que vous soyez religieux ou politicien, vous êtes avant tout un éducateur. Et si vous êtes un éducateur, vous devez avoir une moralité. Et vous devez être un modèle de mentalité. La force d'une église, d'une famille, d'une entreprise ne se trouve pas dans leurs dons et talents, mais dans la mentalité. Vous pouvez avoir des talents, mais si vous n'avez pas la mentalité appropriée, vos talents ne vous serviront à rien. Vous pouvez avoir un potentiel extraordinaire, un potentiel intellectuel, un potentiel matériel, un potentiel financier, même un potentiel politique. Mais si vous n'avez pas la mentalité, votre potentiel ne vous servira à rien. C'est la mentalité qui fait la promotion des talents. Mais pour faire la promotion des talents, il faut avoir une hauteur d'esprit. Voilà pourquoi les Américains ont choisi l'aigle comme le sceau de leur nation. Parce que l'aigle vole haut. L'aigle ne se limite pas aux petites choses de telle a dit, telle a fait, telle est de telle ethnie, ou telle est comme ça. L'aigle vole haut. L'aigle se met au-dessus de ça. Et l'aigle voit ce que la poule ne peut pas voir. Et Jésus n'a jamais dit, et Dieu n'a jamais dit que son église ressemble à une poule. La poule regarde à la terre et sa vision est limitée à la terre. Mais l'aigle élargit son horizon et il voit plus loin et il voit ce que la poule ne voit pas. Quelle mentalité nous avons? Une mentalité de poule ou une mentalité d'aigle? Important, même pour le ministère dont je suis responsable. Si votre responsable a une mentalité d'aigle et que vous avez une mentalité de poule, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi je ne vais pas pour vous aiguiser. Le fer aiguise le fer. Il faut que je vous aiguise. Je sais que des fois, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Mais avec le temps, vous allez comprendre. Lorsque vous allez vous asseoir et que vous serez correctement installé et que le bien-être, et là, vous allez dire, oh, on comprend maintenant ce que nous enseignons. Donc c'est là où vous voulez nous amener. Quand Moïse délivre le peuple d'Israël de l'Égypte, il est conduit. La seule chose qui les effraie, c'est le désert. Mais ce que je sais, c'est que Dieu, au moins, au désert les nourrissait. Dieu, au désert, les montrait déjà des signes qui annonçaient la faveur. Ils étaient nourris de manière surnaturelle. Nous ne sommes pas encore entrés dans l'abondance dans ce ministère. Mais on voit déjà des signes. On voit des signes. Il y a de la provision de Dieu au milieu de nous. Il y a des gens qui commencent à se démarquer. Et ensuite, ils arrivent aux portes de Canaan. On envoie des espions qui ramènent les fruits. Et là, ils se rendent compte que la terre promise est bonne. Moïse, tu nous conduisais donc dans les bonnes choses. Oh, il faut que je vous amène là. J'ai dit, il faut que je vous amène là. Il faut que je vous amène là. La mentalité, c'est la porte qui permet au talent de s'exprimer dans toutes leurs dimensions. Une mentalité excellente engendre que l'excellence. Mais une mentalité d'esclave n'engendre que la médiocrité. La véritable indépendance se trouve dans la mentalité transformée. C'est la mentalité qui nous rend libres et nous rend forts dans nos actions. Proverbe 23, 7, qui est la voix de la sagesse, déclare: car il est tel que les pensées de son âme. Mange et bois, dit-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il est comme les pensées de son âme. Ce verset, mes amis, met en lumière une vérité importante. Vous ne pouvez pas être le contraire de vos pensées. Vous ne pouvez pas être le contraire de vos pensées. C'est impossible. C'est impossible. Ce que vous possédez en vous, c'est ce qui vous fait. Vous ne pouvez pas violer cette loi. C'est un principe établi que nul être humain ne peut changer. Il est tel que les pensées de son âme. Il est tel que les pensées de son âme. Pour prospérer, vous devez changer votre monde de pensée. Tous ceux qui, à ma connaissance, ont atteint l'excellence, ont gagné la bataille de l'esprit. C'est-à-dire de la mentalité. Et ont adopté des pensées justes. Quand vous voyez quelqu'un dans l'excellence, il est excellent dans ce qu'il fait. Excellent dans ses propos. Excellent dans son comportement, excellent dans sa manière de donner, excellent dans sa manière d'encourager les autres, excellent dans sa manière de comprendre les autres, excellent dans sa manière de soutenir les autres, excellent, excellent, excellent dans sa famille, excellent avec sa femme, excellent avec ses enfants. Cet homme-là ou cette femme-là a gagné la bataille de l'esprit. Elle a gagné la bataille de l'esprit. Vous devez savoir où se situe votre véritable combat. Vous devez savoir où se situe votre véritable combat. C'est ce que l'apôtre Paul essayait d'exprimer dans Éphésiens 6, 12, lorsqu'il déclare, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre combat, déclare parole vivante, ce n'est pas contre les êtres humains. Ton combat, ce n'est pas avec moi qui te parle. Ton combat, ce n'est même pas avec ton père. Ton combat, ce n'est même pas avec ta mère. Ton combat, ce n'est même pas avec ton collègue de travail. Ton combat, ce n'est pas contre les êtres humains. Laisse-les tranquilles. Le terrain de ton combat se trouve ailleurs. Laisse les autres. Laisse la robe que tu ne fais qu'attraper. Lâche la robe. Lâche le costume que tu ne fais qu'attraper. Libère la personne qui hante ta pensée. Ce n'est pas elle. Libère-la. Laisse la personne partir. Fais comme Jésus a dit aux disciples. Détachez l'anneau. Détache la personne. Laisse la personne. Ce n'est pas elle. Lâche la personne. Ce n'est pas elle. Vous devez savoir où se situe le combat. Moi, je sais où se situe le combat. C'est à cause de ça que j'ai changé ma mentalité. Je sais où se trouve ma véritable guerre. Ce n'est pas contre les êtres humains. Ce n'est même pas contre une organisation. Et il y a des hommes qui l'ont démontré. Que même avec le gouvernement, sans le gouvernement, je peux. Il y a des points à démontrer, mes amis. Il a transformé un village en une ville. Il a rallié un village à la capitale. Il a mis le goudron depuis le village jusqu'à la capitale. Il a développé même le système routier de ce village-là. Le transport urbain, c'est lui qui l'a mis sur pied. Il a transformé un village en une ville. Au point où les hommes de la ville permettaient de se rendre là-bas. Mais il l'a fait sans l'argent du gouvernement. Parce qu'il a compris que son combat, ce n'était pas le gouvernement. Son combat se trouva ailleurs. Et quand il a soutenu son combat, il a changé sa vie. Et il a écrit une autre histoire. Et maintenant, la Bible dit, là où il y a le cadavre, c'est là où les vautours se rassemblent. Et regardez les vautours qui vont de toutes les nations pour aller voir ce que cet homme a fait. Et quand les gens reviennent du Nigeria, ils disent, non, Dieu ne peut pas permettre à un homme de faire de telles choses. Pourquoi? Parce qu'au Yédépoissu, où se trouvait le combat. Est-ce que vous savez là où se trouve le combat? Le combat, ce n'est pas le mari de ton enfant. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 au verset 5, il est dit, si nous marchons dans la chair, ou encore, si nous vivons dans la chair, ou encore, si nous vivons dans ce corps-là, nous ne combattons pas selon les stratégies de la chair. Je suis dans ce corps. Mais mon combat, ce n'est pas du corps à corps. Et il y a des gens qui aiment le corps à corps. Vous devez savoir où se situe le combat. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et Paul ajoute, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les âmes pour transformer la mentalité ne se trouvent pas dans le domaine de la chair. Vous n'avez pas le trouver dans les méthodes humaines. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la force ou par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce ne sont pas des âmes charnelles. Je voulais attirer votre attention sur certaines expressions.
Paul dit,
nous luttons contre
les forteresses.
Premièrement. Deuxièmement, nous luttons contre
les raisonnements.
Troisièmement, nous luttons contre
tout auteur
qui s'élève
contre la connaissance.
Quatrièmement, nous luttons contre
les pensées.
Cinquièmement,
nous luttons pour une obéissance totale.
Voici les cinq domaines où nous luttons. Voici là où il y a la véritable guerre
pour que vous deveniez prospères.
Voici la sphère qu'il faut attaquer si vous voulez sortir du trou où vous êtes. Et mes amis, cette guerre-là, prenez ça au sérieux. Ne jouez pas avec ça. Et si vous êtes marié à une personne, associez-vous dans cette guerre-là. Votre partenaire ne doit pas être indifférent. Associez-vous. Un chasse 1000, mais deux chasses 10 000.
Retenez ces expressions que l'apôtre Paul met en lumière.
Paul dit, nous luttons contre les forteresses. Nous luttons contre les raisonnements. Nous luttons contre tout auteur qui s'élève ou qui se dresse contre la connaissance. Nous luttons contre les pensées. Et nous luttons pour une obéissance totale. Voici les cinq clés qui nous ouvriront la porte de la prospérité. Examinons maintenant chaque mot. 1. Qu'est-ce que c'était les forteresses? Une forteresse, c'est le domaine dans lequel on est esclave ou prisonnier à cause d'une certaine façon de penser. Donc nous luttons contre une certaine façon de penser qui s'est érigée en nous en forteresse. Au point où cette façon de penser a fait corps avec notre personne. Et on n'arrive plus à faire la différence entre cette manière de penser et notre personne. Nous reflétons la manière de penser. Et cette manière de penser s'est tellement installée en nous que ça a créé notre personnalité. Et notre personnalité aujourd'hui est devenue notre identité. Et c'est ce qui fait notre mentalité. Et Paul dit, nous luttons contre les forteresses. Nous sommes esclaves dans un certain domaine. Dans notre manière de penser. Dans notre manière de penser. Mais je vais vous prendre un exemple, mes amis. Je vais vous prendre un exemple simple. Proverbe 13, 4 dit, l'âme du paresseur a des désirs qui ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Écoutez bien, l'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Pourquoi il ne peut satisfaire ces désirs-là? Et pourtant il a des désirs. Il veut posséder des choses. Il veut avoir une position. Il veut changer son destin. Il veut changer son statut. Mais son âme là est remplie de désirs. Mais il n'a pas la puissance de posséder ses désirs. Question, pourquoi? Réponse, il est paresseux. Il est paresseux. Mais cette paresse est due à quoi? À une certaine manière de penser. Et la Bible va paresser, il y a un lion dehors. Cette manière de penser ne lui rend pas productif. Il ne veut pas prendre le risque sur le prétexte qu'il y a un lion. Alors il n'initie rien. Mais pourquoi tu ne te bats pas dans la vie? Oh, la vie est dure. La vie est dure. Non, dans le proverbe, le paresseux dit il y a un lion. Mais au 21e siècle, on dit la vie est dure. Notre lion, c'est la vie est dure. La vie est dure. C'est plus facile d'avoir les portes ouvertes. Rien ne marche dans le pays. Le pays est foutu. Je n'ai pas de longs bras. Je n'ai pas de sponsors. Il n'y a personne pour m'ouvrir une porte. Et pourtant, hein, j'ai les rêves. Hein. Et pourtant, je sais que je peux. Quand je me regarde, je le sens. Oh, vraiment, c'est là. Mais hélas, mon ami, je n'ai personne. Le paresseux trouve toujours des raisons. Toujours des raisons. Mais le même verset dit mais, c'est la différence. Mais l'âme, vous voyez, les deux ont des âmes. Mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. L'âme du bosseur sera rassasiée. L'âme qui aime prendre des risques. L'âme qui entreprend. L'homme qui s'est jeté son pain à la surface des eaux possédera. Ecclésiaste dit, ne laisse pas reposer ta main, parce que tu ne sais pas ce qui peut te rapporter. Dès le matin, sème. Dès le matin, c'est quelque chose. Dès le matin, entreprends. Dès le matin, lave-toi. Tu ne sais pas ce que tu vas posséder dans la journée. Mais l'âme du paresseux dit, il y a un lion. Et Paul dit, nous luttons contre ça. Il y a des forteresses. Et on peut maintenant vous parler de la mentalité gabonaise. La mentalité gabonaise. J'ai bavardé avec un ministre de la République. Je suis allé le voir pour prier avec lui et l'encourager. Et je lui ai dit, mais qu'en est-il de la politique du plein emploi? Il m'a dit, mon fils, le plein emploi avec les Gabonais, c'est difficile. Et il a commencé à m'expliquer. Il dit, nous avons créé de l'emploi par rapport au fait de construire le bâtiment des sénateurs. Nous avons tendu la main à la main-d'œuvre gabonaise. Cet édifice, ça devait être construit par les Gabonais et les Chinois. Les Gabonais devaient travailler la journée. Et les Chinois, eux, ils prenaient le relais la nuit. Mais les Gabonais, ce qu'ils produisaient la journée, était inférieur à ce que les Chinois produisaient la nuit. Les Chinois travaillaient deux fois plus la nuit que le Gabonais qui travaillait la journée. Ensuite, il m'a dit, ils ont commencé à gréver. Et a dit, les Chinois sont en train de nous exploiter. Le travail est trop difficile. Et ils ont fait la grève. Ils ont décidé qu'on ne peut plus. Le gouvernement a décidé d'étendre la main à la main d'œuvre étrangère. Le Gabonais, après l'ère de l'indépendance, a dansé. Après l'indépendance, le Gabonais a connu le boom du pétrole. Les parents qui ont connu le boom à cette époque ont inculqué une certaine mentalité. La facilité de posséder. Au point où il y avait un slogan dans les années 80 qui disait « Mon oncle est capable. » Et quand ton oncle était ministre, tu estimais que tout le monde était devenu ministre dans ta famille et que vous étiez devenu riche. Au point où le Gabonais n'avait plus besoin de travailler, puisque tonton donnait, tantine donnait, il y avait l'argent qui coulait. Et on a grandi là-dedans. C'est ce qu'explique que le Gabonais, quand il commence une société, il est déjà directeur général. Il n'aime pas l'effort. Et ce système de pensée-là a créé des forteresses qui ont pris corps avec le Gabonais. Et c'est devenu une seconde nature pour le Gabonais. Et ensuite, ça a forgé en nous une mentalité qui nous a permis maintenant d'avoir une identité. Et une mauvaise identité. Les Américains ont changé la mentalité de la population par une simple déclaration. Avant de demander ce que le pays doit faire pour toi, demande-toi d'abord ce que tu peux faire pour ton pays. Voici ce qui a changé les États-Unis. Donc dans la mentalité des Américains, avant que je ne revendique quelque chose de la part de mon pays, il faut que je sois capable d'abord de faire quelque chose pour mon pays. Et si je réussis à faire quelque chose qui va favoriser mon pays, à partir de ce moment, j'ai le droit de revendiquer. Maintenant, nous revendiquons sur quelle base? Est-ce que, lorsqu'on te regarde, on peut dire oui, tu as été une source de bénédiction pour ton pays? Là, tu peux revendiquer. Deux, parmi nous luttons contre les raisonnements. Mais qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement? C'est quoi un raisonnement? Le dictionnaire dit c'est la réflexion. Dites avec moi la réflexion. Dites ça bien, la réflexion. Le raisonnement, c'est la réflexion. C'est aussi le fait de justifier notre refus de changer. Quand bien même nous connaissons la vérité. C'est aussi le fait de justifier notre refus de changer. Quand bien même nous connaissons la vérité. Moi, on dit, je ne change pas. Et pour dire ce genre de raisonnement-là, nous luttons contre ça parce que ça stoppe notre prospérité à tous égards. Ce raisonnement ne nous permettra pas d'être meilleurs et de posséder la crème, la quintessence de la nation. Ésaïe 1 dit, tu mangeras les meilleures productions. Et quand je dis, je dois manger le meilleur, il y a des gens qui viennent me dire, sois humble. Mais le meilleur n'est pas conditionné par mon humilité. Le meilleur, je veux le posséder si j'arrive à changer mon raisonnement. Et que je commence à raisonner selon la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. En réalité, la vérité qui nous rend libre, c'est la vérité que nous connaissons. Alors connais-toi toi-même et tu seras libre. Ayez la révélation de qui vous êtes et vous serez libre. Troisièmement, il dit nous luttons contre tout auteur qui se dresse contre la connaissance. C'est-à-dire qui s'oppose à la connaissance. Lorsque la Bible nous parle des auteurs qui s'élèvent contre la connaissance, elle fait allusion à des esprits méchants. C'est-à-dire que Satan et tout son gouvernement travaillent dans le but de vous empêcher d'avoir accès à la connaissance qui est la clé de votre prospérité. Et cette vérité se retrouve dans la parabole du semeur. Un semeur est sorti, il a semé sa semence. Et Jésus explique que ceux qui reçoivent la parole et qui commencent à porter du fruit, ensuite le fruit disparaît, c'est ceux qui reçoivent la parole et puis oublient. Et le diable vient enlever cela de leur cœur. Donc, quand vous décidez de changer, il y a une puissance que le diable va libérer pour vous stopper. Quand vous dites, je vais changer, quand vous commencez à prêcher le message du changement, même dans l'église, il y aura des gens hostiles. Parce qu'ils préfèrent qu'on reste là. Restons là, mourons là, on est comme ça. L'homme aime qu'on soit tous pareils. Mais l'homme ne supporte pas la différence. L'homme ne supporte pas la différence. L'homme ne supporte pas ça. L'homme aime le mélange, il faut qu'on se ressemble tous. Restons là. Et quand vous nous dites changer, on dit, oh, il veut dire quoi? On est bien là. On est bien là. Et ce sont des esprits religieux. Comment vous pouvez expliquer que Jésus rentre dans une synagogue et dans la synagogue, il y a des démons qui sont là. Vous croyez qu'ils font quoi là dans la synagogue? Ils font quoi là? Et pourtant, le souverain sacrificateur fait le culte. Mais il y a quand même un démon là. Et il est là depuis longtemps. Et les gens sont assis dans sa sphère. Il influence, il libère un climat, il est là assis. Ça ne change pas. Mais malgré ça, le sacrificateur continue à faire son culte. Le démon, il s'en fout de votre culte. Vous pouvez faire votre culte, vous pouvez danser, vous pouvez chanter. Lui, il s'en fout. Tant qu'il vous tient dans la mentalité, le royaume de Dieu ne va pas se manifester. Il s'en fout. Il s'en fout, il peut rester là. Vous chantez, vous dansez, vous dites, aujourd'hui il y a eu l'esprit, vous faites même toutes les bandes, vous descendez, vous bougez. Il s'en fout. Il dit dansez, dansez. Mais moi, il y a une chose que je ne veux pas, c'est que votre mentalité change. Voilà pourquoi on dit, ce peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une lumière s'élever. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens que le diable travaille afin de fermer le cœur des gens pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de notre Seigneur Jésus. Il se bat pour ça. Et des fois, tant que leader, tu fais de ton mieux, tu amènes un message, mais tu sens les oppressions. Et des fois, même les gens qui sont à côté de toi, tu as l'impression qu'ils commencent à s'éloigner. Mais le combat, ce n'est pas contre les hommes. Ce n'est pas contre les hommes. C'est contre les esprits. Et quand l'esprit religieux s'installe, quand il s'installe, il s'assoit bien. Et il vous dit, faites tout ce que vous voulez. Vous savez que le diable peut s'asseoir dans une église et jouer avec vous. Et vous êtes là, au nom de Jésus, démon sort. Et puis il dit à l'autre démon là-bas, agite un peu la femme qui est à côté. Là. Et puis il fait, parce qu'il faut donner juste au prédicateur un peu la sensation que ça marche. Et il est là, alléluia. 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 Oh ma chère, Dieu est là, Dieu est là. Alléluia. Le diable dit, c'est bon, il a eu aussi sa dose. C'est ce qu'il avait besoin, ce prédicateur-là. Et puis l'église est là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il vous tient. Vous voulez savoir qu'une église est délivrée? Regardez l'éclat de cette église. Regardez l'éclat de chaque membre. Si vous voulez savoir que l'église est délivrée. Vous m'excusez. J'aime les catholiques en tant qu'individu, mais je n'aime pas la manière de faire. Oh, la route sale, c'est ce qui amène au paradis. La route propre, c'est ce qui amène chez le diable. Faut pas aimer la route propre, faut toujours aimer la route sale. Un homme de Dieu doit avoir les sandales et les gros orteils dehors. C'est la preuve qu'il est humble. Et quand il parle, il faut qu'on sente qu'il y a des vibrations. Et quand tu apparais, tu dis, les amis, stop! Il faut que ça change. On dit, oh, nous sommes où? Et on commence à dire, faites attention. Faites attention. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue à l'intérieur du pays, plus précisément dans la ville de Bitam. J'ai tenu une série de réunions à Bitam. Et à cette époque-là, dans les années 80, il n'y avait pas d'église de réveil. Je n'ai pas dit de réveil. Et je suis arrivé, j'étais accompagné de deux personnes parce que je devais commencer à prêcher pour installer une cellule. Et après, on devait commencer une œuvre dans cette ville de Bitam. Alors, je n'avais pas d'endroit. En bon pentecôtiste, j'ai décidé d'aller quelque part. Et je suis rentré dans ce temple que je tairai le nom. Et le prédicateur est monté sur le podium après des cantiques. Moi, j'étais assis. Et il prend l'histoire de Abraham qui devait sacrifier Isaac. Il prêche sur le sacrifice d'Isaac. Et il termine en disant, « Oh Dieu, amène ton peuple à comprendre que la maladie que tu as déposée dans sa vie, c'est pour éprouver son degré de foi. Pour voir jusqu'où il est capable d'aller avec toi. » Et les gens disent, « Amen. » Et dans cette église, il y avait des malades. Et moi, j'étais là, ça bouillonnait. Je dis, « Mais qu'est-ce qu'ils rencontrent ?» Mon attention s'est braquée sur un homme pendant tout le culte qui s'est plié de douleur. Il avait mal. Mais malgré la douleur, il disait quand même, Amen. On l'a mené à accepter la douleur. Et en disant Amen, il disait à Dieu, je vais te montrer que je suis prêt à supporter. Amplifiant encore la douleur, Amen. Je vais te montrer que je t'aime. À la fin du culte, j'avais tellement eu de compassion pour cette personne. Je suis allé voir la personne, j'ai dit, s'il vous plaît monsieur, je vais organiser une réunion là, où je vais prier pour les malades. Ça ferait du bien de venir. Il dit, ah, colonne! Laissez-moi avec ma maladie. On t'a dit que c'est le diable, c'est Dieu. Et là, j'ai compris que la chose la plus dangereuse, c'est la religion. Parce que la religion n'a rien à y voir avec l'expression du cœur de Dieu. Et la religion dit à Jésus, il y a 6 jours, choisis un jour, pour que le jour du sabbat tu viennes guérir. Comment des hommes de Dieu peuvent être contre le fait qu'un aveugle a vu? Le gars est là depuis longtemps dans votre temple. Il mendie, on ouvre les yeux pour qu'enfin il puisse voir clair et travailler. Vous dites non. fallait choisir un autre jour. La religion. Et Jésus va les répondre dans toute la sagesse de Dieu. Il va dire, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dans 2 Corinthiens 2, le verset 10 à 11, il est dit, veillez et ne laissez pas Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il dit, ne le laissez pas l'avantage. Luttez, renversez, opposez-vous à tout auteur qui se dresse contre la connaissance. Et des fois, quand vous établissez des séminaires dans la vision d'amener les gens à être meilleurs, quelqu'un se dresse. Qu'est-ce qui vous empêche d'assister à des espaces de motivation pour devenir meilleur? La chose qui vous stoppe là, je viens de l'expliquer, c'est lui. De peur que vous ne voyez briller la splendeur de l'évangile, que vous ayez accès à Eureka, la révélation, pour changer votre destin. Et des fois, le diable va vous dire, vous connaissez tout. La personne qui dit qu'il connaît tout vient de déclarer publiquement qu'il n'existe plus. Parce que aussi longtemps que nous vivons, nous allons apprendre. Et c'est ce qui fait la vie. Et c'est ce qui rend la vie agréable. La découverte égaye la vie. Alors je vais toujours apprendre. Parce que la connaissance contribue à mon épanouissement. Mais le jour que j'ai dit, je n'ai plus besoin d'apprendre, je me suis fermé et je meurs. 4. Pas nous luttons contre les pensées. Les pensées nous font. Les pensées nous font. Il est tel que les pensées de son âme. Les pensées nous font. Et c'est là notre champ de bataille. C'est les pensées. C'est le terrain sur lequel le diable nous attaque pour nous empêcher de nous réaliser dans la vie. Les pensées. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Mais ce que le paresseux ne sait pas, c'est qu'en réalité, dehors il n'y a pas de lion, mais le lion est dans sa tête. Dehors il n'y a pas de lion. Vous avez vu un lion traîner dans la ville de Libreville? Dès qu'on va voir un lion traîner, les sapeurs-pompiers vont se déchaîner. Parce que Libreville n'est pas faite pour les lions. Il y a un seul endroit, si vous voulez trouver les lions, allez-y dans la brousse et dans la savane. Mais le paresseux a quand même une dimension. Il vous dit, dans une ville éclairée comme Libreville, développée, moderne, il vous dit, il y a le lion. Il vous dit, il y a le lion. Mais le paresseux ne sait pas que le lion n'est pas dehors. Au fait, le lion est dans sa tête. Et le lion qui est dans sa tête lui dit, je suis dehors, je t'attends. Et le lion lui dit, si tu sors, je te broie. Mais si le paresseux peut comprendre qu'en réalité, le lion est en lui. Et c'est le lion qui le possède là, qui l'empêche de faire certaines choses. Et que s'il veut sortir pour faire quelque chose, il faut qu'il arrive à déloger le lion qui est dans sa tête. Et écoutez, dehors là, il y a des opportunités. Dehors là, il y a tout ce qu'il faut pour que vous deveniez meilleur. Dehors là, il y a des espaces non conquis. Dehors là, il y a encore assez de terrain, d'autres faits, mais il y a encore le terrain. Mais le problème, c'est dans votre tête. Réglez le problème du lion qui est en vous et vous aurez le courage d'ouvrir la porte pour commencer à faire quelque chose. Le lion. Je n'ai personne. Je disais un jour ici, un trésor non révélé n'a pas de valeur. Mais comment vous voulez que les hommes puissent connaître ce que vous valez si vous avez peur de vous révéler là-dedans? Comment on va vous connaître? Vous savez qu'on peut être dans notre petite église là, entre nous-mêmes. Qui va nous connaître? Qui? On va chanter, on va dire les bonnes choses. Qui nous connaît? On va tous vivre ça là, au milieu de nous. Ok? Et chacun rentre chez lui. Et on revient. C'est comme notre petite cachette. Et on vient dire, sois motivé. Sois béni. Sois encouragé. Alléluia. Nous sommes vainqueurs. Jésus est vivant. Nous triomphons. Et puis on rentre chez nous. Et je dis, on revient. Dans notre petite cachette. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Et puis, le responsable vient et dit, hé, les gars, sortons un peu. Allons-y dans les endroits publics. Oh, tu sais,
Il faut quand même être réaliste. Ça va nous demander de l'argent. Ça va. Ça va coûter combien, là? Ça va, parce que c'est bon, la télévision, la radio, les espaces de motivation, c'est... Pasteur, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, pasteur, c'est bien. Mais je crois en même temps que c'est pour les autres, c'est plus pour nous, parce que nous, on a une autre dimension. Et des fois, les dimensions, là, je ne sais même pas comment vous évaluez ça. Vous évaluez ça, attends, vous évaluez ça comment? Oh, les amis. Le lion n'est pas dehors. Il est là. Il y a des gens qui croient que dehors, là, l'échec se balade. Ça dit, l'échec se balade. Il dit, essaie de sortir, tu vas voir. Essaie de sortir, tu vas voir. Essaie, tu vas voir. Je t'attends. Et vous lui dites, fais quelque chose. Demain, demain. Je ferai demain, demain. Pasteur, je te promets. 2006, et Dieu m'entend. Vous n'allez pas me reconnaître. Si vous n'avez jamais eu une brebis ou un collaborateur digne de ce nom, la pasteur, on va voir 2006. Et tu lui demandes, mais dis-moi, mais 2005, on fait quoi? Laisse-moi m'entraîner. Et il s'échauffe. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il a peur, là, 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 juste dehors, là. Il a peur. Et il n'y a pas plus peureux que certains chrétiens, soi-disant chrétiens, soi-disant chrétiens, mais en réalité qui sont des crétins. Ils remettent toujours leur changement à demain. Et le verset qui tourne, Jésus a dit, à chaque jour, suffit sa peine. Mais Jésus n'a pas dit ça pour le changement. Jésus a dit ça par rapport au lendemain. Et par rapport le fait de manger, de boire et de se vêtir. Il a dit, ne vous inquiétez pas pour la cuisse de la poule, pour le costume, pour le jus de fruits ou pour le moment là où tu es là. Fais d'abord ce qui est important là. C'est quoi? Cherche le royaume. Et demain, il aura son souci. C'est terrible, les amis. C'est terrible. C'est terrible. 5. Il dit, nous luttons pour une obéissance totale. On ne naît pas obéissant, mais l'on devient. Et c'est l'exercice de l'obéissance qui nous amène dans l'obéissance. Et c'est la force de s'exercer qu'on développe des aptitudes dans l'obéissance. Ce n'est pas le ring qui fait le boxeur. C'est l'entraînement de tous les jours qui fait le boxeur. Et le ring révèle le boxeur. Le ring fait deux choses. Il révèle les performances du boxeur et il révèle les infirmités du boxeur. Mais le boxeur doit sa performance à la routine quotidienne. Et si le boxeur n'a pas fait bon usage de son entraînement, c'est le ring qui va révéler ses défauts. Et souvent, le ring de l'exercice révèle qui nous sommes. C'est la clé.
En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missiongcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.